Bonjour à tout le monde. Voilà, ce qui a motivé ce partage ce matin, ça a été une question de Lucie, la fille de Patricia et Pascal, il y a quelques mois. Et puis Jean-Marc m'a encouragé à aborder ce sujet-là. Alors, c'est un texte compliqué à comprendre de l'écriture, mais ça va aller très vite, vous verrez bien. Je vous fais confiance complètement. Donc, Patricia, si tu peux mettre la lecture, 1 Timothée 2, 9 à 15. Voilà, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se parent non pas de tresses ou d'or ou de perles ou de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère dans la foi, dans l'amour, dans la sanctification, avec modestie. Je vous ai dit que vous alliez très rapidement comprendre, parce que si je prends le texte là, tel qu'il est, je ne crois pas que je puisse rester à cette place. Non seulement il m'est interdit d'être là, si je prends le texte à la lettre, mais j'ai aussi l'obligation en tant que femme de rester dans le silence. Comment Paul peut-il dire une chose pareille ? Alors qu'il parle juste dans ce texte de femmes qui font profession de servir Dieu, le mot en grec « professer », ça veut dire être professeur, enseigner, annoncer, dire, proclamer. Il me semble qu'il faut parler pour ça. Comment peut-il proclamer et demander le silence alors qu'il dit que des femmes doivent prier ? Comment les quatre filles de Philippe dans les Actes pouvaient prophétiser. Donc vous voyez, la parole de Dieu n'est pas cohérente et Dieu n'est pas cohérent dans son discours, si on prend les choses en l'état. On va donc s'accrocher à ce texte un peu difficile à comprendre. Des docteurs de la loi ces dernières années ont eu le courage, donc des hommes, de revisiter ces textes et de nous en apporter un éclairage différents. Alors vous vous ferez votre propre opinion avec ce que je vais vous partager aujourd'hui. En tout cas, je pense qu'on peut dire, voilà, en tout cas pour moi, c'est qu'il est dangereux de prendre un verset, de le sortir de son contexte et d'en faire un dogme. C'est pourtant ce qui s'est parlé quand il est dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner » ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Il y a des communautés qui appliquent à la lettre cette parole. C'est leur choix, c'est leur conviction, et je pense qu'on sait très bien que dans le monde ecclésial, il y a des convictions qui peuvent être, peut-être avec des regards différents, à nous aussi de réfléchir, d'utiliser notre intelligence pour comprendre et surtout découvrir qui est notre Dieu. Parce qu'au final, c'est ça qui est important. Alors, pour mieux comprendre ces versets, on va se mettre un peu comme sur une scène de théâtre, et on va poser un décor. On va partir du décor, et on va aller après, petit à petit, sur chacun des versets, chacun des mots. Le décor, c'est la ville d'Éphèse. C'était la capitale de l'Asie mineure, de l'actuel sud de la Turquie. C'était une ville splendide, le premier port maritime de toute la Méditerranée à l'époque. C'était une ville qui drainait, qui était importante, qui drainait un trafic important, qui était importante au niveau du commerce, au niveau social. En fait, c'était une capitale, un haut lieu. Et il y avait surtout une particularité, c'est que dans la ville d'Éphèse, il y avait un temple à la déesse Artémis, une déesse de l'Antiquité. Ce temple était considéré comme la septième merveille du monde. Et en fait, il paraît qu'en débarquant sur le port, on ne pouvait pas ne pas le voir, ce temple, parce qu'il y avait une allée tellement grande, avec des colonnes tellement importantes qui menaient jusqu'à ce temple. Il y avait un théâtre magnifique, il y avait une bibliothèque. Enfin, c'était vraiment un lieu superbe. Et dans ce temple, il y avait un grand prêtre, mais il y avait aussi ce qui existait souvent à cette époque-là dans les cultes idolâtres de l'époque païen. Les femmes vivaient beaucoup de la prostitution sacrée. C'était une réalité, malheureusement. Donc voilà pour le décor. Et en fait, Paul demande, on peut mettre le verset 1 et 2 de 1 Timothée. Donc Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et du Christ Jésus, notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi. Donc Paul écrit à son enfant dans la foi, qui est Timothée. Alors, vous pouvez aller faire une étude vous-même sur la personne de Timothée. Vous prenez une concordance, Timothée, puis vous verrez tous les versets qui le concernent. C'est passionnant aussi de travailler comme ça. Donc, ce jeune homme suivait Paul et Silas durant le troisième voyage de Paul. Il a vécu une formation pastorale pratique sur le terrain avec ces deux hommes et surtout aux côtés de Paul. Vous pourrez lire tous ces récits dans Actes 16 à 20 et on se rend compte que donc que Paul a fondé cette église à Éphèse. D'habitude, il allait à la synagogue et là, on lui donnait la parole étant un invité extérieur. Et là, c'était l'occasion pour lui d'enseigner l'évangile et d'annoncer Jésus-Christ avec toutes les conséquences qu'il y avait. Et donc, vous vous rendrez compte que Paul a bousculé beaucoup de choses à la fois sur le terrain, mais dans les lieux spirituels, et ça a été terrible. Il a failli perdre la vie tellement il mettait le doigt sur l'économie, sur le culte, sur des coutumes, des traditions. Enfin, voilà, ça a été vraiment. Il a touché là un haut lieu, non seulement terrestre, mais un haut lieu spirituel. Et donc, Timothée avec lui, et là ils ont fondé cette église d'Éphèse. Alors les spécialistes de cette lettre s'entendent pour dire que le cœur même de cette lettre se trouve dans Timothée 3,15, où je vais vous lire le verset, je ne sais pas si je l'ai mis sur la lettre, oui. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. En fait, quand on lit cet épître, on se rend compte que chaque mot de Paul a son importance. Et il y aurait tellement, tellement de choses à dire. C'est un vrai trésor dans lequel on creuse. Et je crois que quand Paul parle de l'église comme colonne de la vérité, c'était pas pour rien. C'était pour faire face à cette allée de colonnes qui menait à ce temple. Et là, il repose un fondement qui est celui de la colonne de la vérité que devrait ou doit être l'Église. Donc, cette jeune Église, toute jeune, elle était composée de juifs qui s'étaient convertis et de païens ou dits des gentils qui venaient dans cette église. Elle avait une dizaine d'années, elle était toute jeune, il fallait que les gens découvrent un peu ce que pouvait être l'organisation d'une vie d'église, quelle était la pratique. Et c'est pour ça que pour Paul, toute cette épître va être canalisée par cette notion de se conduire dans l'Église. Comment est-ce qu'on se conduit dans l'Église ? C'est des choses qui peuvent nous paraître aujourd'hui évidentes, mais voilà, replacées dans son contexte culturel, c'était quelque chose de particulier. Les Juifs avaient l'habitude de vivre des cultes, à la fois ils écoutaient l'Écriture, mais il y avait des questions qui étaient posées et on reposait des questions en retour et c'était des rencontres interactives. Et puis pour les païens, c'était pareil, il y avait des interventions permanentes pendant les temps de réunion. C'est pour ça que, voilà, il était temps de poser une forme de conduite qui permette à tout un chacun de vivre dans le bon ordre. Et il y avait parmi cette église un groupe de personnes qui enseignaient de fausses doctrines, des mythes et des généalogies. Là aussi, ce n'est pas un hasard si Paul utilise ces mots. Et qui voulaient installer aussi une vision légaliste de la vie avec Jésus. Un légalisme sectaire qui s'opposait à la grâce de Dieu. Ça, c'était un aspect de déviance dans cette jeune église. L'autre problème auquel ils étaient confrontés, c'est qu'il y avait un enseignement nouveau qui arrivait, qui s'appelle le gnosticisme, du mot grec de la gnose ou la connaissance. Et il semble que cette doctrine enseignait que Ève avait été créée en premier avant Adam et qu'au moment de la désobéissance de Ève, celle-ci aurait reçu de la part de Satan une connaissance particulière, secrète, que seuls des initiés peuvent connaître. Et ça, je crois que c'est aussi, on ne peut pas entrer dans des détails aujourd'hui, mais c'est aussi important. Satan utilise toujours la même chose. Et quand je pense aujourd'hui aux thèses complotistes, on est à peu près sur le même terrain, la même procédure de Satan. Il y a un groupe de personnes initiées qui savent, et puis il y a tous les autres qui ne savent pas. Et ça crée ce qu'on appelle des sectes, des divisions, des séparations. On y a été confronté ici pendant un temps et il a fallu se battre dur pour qu'il n'y ait pas de division qui s'installe. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, on a passé un petit peu du cadre, du décor de la pièce de théâtre, si on peut dire. Et on va aller un petit peu plus loin en lisant 1 Timothée 1, 3 à 7. Alors, je vais le lire là pour ne pas me retourner. Comme je t'y ai exhorté à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui favorisent les discussions plutôt que l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Quelques-uns s'en étant détournés se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Donc ils veulent être docteurs de la loi, c'est-à-dire être légalistes, gérer ce que la loi, tu dois, tu dois pas, tu dois, tu dois pas, qui nous prive de cet engagement qu'on prend au baptême, si vous vous souvenez. L'engagement du baptême, entre autres, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Et la conscience, elle nous est propre, individuelle. C'est mon identité propre et ce n'est pas la loi qui me dit ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire et qui instaure un légalisme extrêmement malsain et qui porte que du mauvais fruit. Ça ne veut pas dire que la loi est mauvaise, mais c'est ce qu'on en fait qui n'est pas bon. Et l'autre partie que je voulais qu'on lise, c'est justement la balance, c'est les versets 14 à 16. Et la grâce dans notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis, moi, le premier. Mais il m'a été fait miséricorde afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ, montre toute sa patience pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. La loi condamne, l'évangile convainc. L'évangile nous convainc de la bonté de Dieu, de qui il est, et comme Paul le présente au premier verset, que Jésus est Dieu notre sauveur, et que c'est par la foi qu'on est sauvé et non pas par l'exercice de la loi. Alors, vous lirez à la maison ces versets, on n'a pas le temps pour l'instant de s'y arrêter, mais c'est dans ce contexte que Paul recommande des pratiques pour que l'Église puisse vivre de manière ordonnée. Alors, ce n'est pas toujours facile de suivre la pensée de Paul, parce qu'il dit en très peu de mots, comme disait quelqu'un récemment, la substantifique moelle des choses. Ce n'est pas toujours facile à comprendre. Et c'est pour ça que Paul aborde le sujet de la prière. Alors, il devait y avoir certainement un problème à ce niveau-là. On ne sait pas, on n'a pas le détail des choses. Et donc, on peut lire dans 2 Timothée 1, on peut, le deuxième chapitre, 1 Timothée 2. Je ne sais pas ce qu'elle parle. Voilà, 2, 1 à 7. J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu, pour lequel j'ai été moi-même établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, docteur des païens dans la foi et la vérité. Voilà, on n'est pas sauvé par la pratique de la loi. On est sauvé par la grâce. Et cette grâce, elle est pour tous les hommes. Et là, Paul, voilà, pensait que c'était essentiel pour cela et qu'il était important de prier pour tous les hommes et pas seulement pour ceux qui seraient sauvés et les autres laissés pour compte. C'est pour ça que c'est tellement important et je pense qu'on peut faire aussi une parenthèse parce que c'est aussi tellement d'actualité de prier pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Je crois qu'à l'heure actuelle, si les chrétiens, plutôt que de râler après tout ce qui se passe, on pouvait, au lieu de râler, d'ouvrir notre bouche pour prier pour nos responsables, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, peu importe, l'Écriture est claire, la demande de Dieu est claire. Prions pour nos autorités et on en a éminemment besoin aujourd'hui. Et alors, c'est là, après les versets suivants, qu'il se passe quelque chose. Parce que je vais vous montrer dans ma Bible, il y a un verset 8, je ne sais pas si on le voit, 8, voilà. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures sans colère ni contestation. Et je ne sais pas dans la vôtre, mais moi dans la mienne, il y a une séparation que les traducteurs ont fait avec des sous-titres, vous savez. Et tout d'un coup, j'ai « Devoir des femmes ».
Amen.
Mais c'est étrange parce que les versets précédents, c'est la prière pour tous. Je ne trouve nulle part le devoir des hommes. C'est quand même étrange. Hein? Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. En fait, les séparations, les petits sous-titres, en l'occurrence ici, sont mal placés et sont injustes. Quand Paul dit « Je veux qu'on prie pour tous les hommes », il parle « Je veux qu'il veut que tous les hommes soient sauvés » au verset 4. Il utilise le mot grec « que tous les êtres humains soient sauvés ». En français, on n'a pas cette différenciation. Dans le verset 8, quand Paul dit « Je veux que les hommes prient en tout lieu », le mot grec, c'est l'homme au masculin. Donc en fait, il faut que notre analyse s'arrête au verset 7 et après qu'on puisse faire deux colonnes, une colonne pour les hommes au masculin et une colonne pour les femmes à côté, mais à la même hauteur. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Donc, l'objectif qui est de vivre une église ordonnée dans le bon ordre, Paul implique au masculin que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. Ça, je ne sais pas pour le peuple français si c'est possible d'être sans contestation. Mais c'est écrit. Je me permets juste, hein. Avec toute l'affection et l'amour que j'ai pour la France. C'est connu depuis toujours. Mais voilà, les gens priaient à l'époque, surtout parmi les Juifs, en élevant les mains. Ils élevaient les mains pendant la prière. Mais est-ce que ces mains étaient pures? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, dans l'être, la colère, dans la révolte? Paul pose des choses extrêmement importantes. Et si on veut reprendre la notion de devoir, on pourrait dire le devoir des hommes, c'est ça. Et après, Paul passe au devoir des femmes. Avec des tenues décentes, de la pudeur et de la modestie, se parant d'œuvres bonnes plutôt que d'apparence. Voilà. Mais d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu, donc qui veulent servir Dieu tant par des actes que par leurs paroles, que par le fait d'annoncer l'évangile à toutes sortes de groupes de personnes. Alors c'est vrai que la notion de tenue peut nous paraître étrange, mais il faut comprendre qu'à l'époque, les femmes avaient des tenues particulières. C'est dans d'autres lettres de Paul où il est question de porter un voile, de ne pas porter de voile, d'avoir des longs cheveux, de ne pas avoir des longs cheveux, que les hommes aient des longs cheveux ou pas. Voilà, on était confronté à cette époque à toute une culture vestimentaire, mais qui avait du sens. Hein? Je pense par exemple aujourd'hui que pour des musulmanes, si elles sont voilées, pas voilées, ça a de l'importance, ça a du sens. Que l'on soit pour ou que l'on soit contre, alors qu'aujourd'hui, notre tenue vestimentaire n'a pas la même valeur, ou peut-être que des fois, elle devrait retrouver un peu de valeur. On peut peut-être dire qu'on a basculé. Dans... Après, ce n'est pas notre tenue vestimentaire qui fait de nous ce que l'on est. Et ce que Paul veut dire, c'est que ce qui est important, c'est ce qui je suis moi. et ce n'est pas l'apparence que je veux donner qui est importante. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas porter de perles ou de bijoux. Hein. Moi, je suis favorable. En fait, vous me voyez des fois avec des boucles d'oreilles. Voilà, mais que ces choses-là ne soient pas l'essentiel pour paraître. Ce qui est important, c'est qui je suis, moi, ce que Dieu fait avec ma vie. Et l'apparence que j'ai a toute son importance, mais ce n'est pas la priorité. Et c'est là qu'on arrive aux textes qui sont un peu compliqués. Alors, on va passer au verset 11. Alors là, il y a quelque chose de particulier, parce que dans les versets précédents, au verset 9, quand Paul il dit de même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, c'est les femmes au pluriel. Dans le verset 11, c'est que la femme, on est sur une notion de singulier. Donc, il semble que dans ce groupe d'enseignants de fausses doctrines, il y avait une femme parmi eux. On sait que Paul a eu à mener une discipline très rude à l'égard des hommes de ce groupe. Il y a des noms qui sont cités, je ne vais pas vous les dire, vous lirez vous-même. Alors, pourquoi Paul est si dur avec les hommes ? Parce que je crois que la discipline, malheureusement, c'est quelque chose qui existe dans l'Église, donc on est parfois obligé de mettre en place. Jamais ce serait le mieux, mais on ne peut jamais dire jamais dans ces choses-là. Alors, qu'est-ce qui nous semble être si dur dans la discipline de Paul à l'égard de la femme ? Que la femme s'instruise en silence. Il s'agit d'une femme parmi ce groupe. Et en fait, le mot grec qui est utilisé là, c'est un ordre de Paul à cette femme. Il ordonne à cette femme qu'elle soit instruite. Autant vous dire que c'est une révolution. Parce que les femmes n'avaient pas le droit à l'instruction. Souvenez-vous que Marie, Marthe et Marie, qui était au pied de Jésus, Jésus l'a encouragée, elle n'avait pas le droit d'être au pied de Jésus. Elle n'avait pas le droit d'être enseignée par le maître. Ce droit-là était réservé qu'aux hommes. Mais Jésus a transgressé ces traditions pour permettre à Marie d'être enseignée, d'être éduquée. On ne se représente pas aujourd'hui le privilège qu'on a, mais dans beaucoup d'endroits du monde, c'est encore comme ça. Les femmes, les filles, les petites filles n'ont pas le droit d'aller à l'école. Je sais qu'en Afghanistan, elles reçoivent de l'acide parfois pour les empêcher d'aller à l'école. Or là, Paul dit, j'ordonne que la femme, que cette femme-là soit instruite. En fait, Paul lui ouvre grand les portes de l'éducation et devient à ce titre le digne disciple du Christ. C'est quelque chose moi qui m'émeut profondément parce que je trouve que quand on a ce regard-là, il y a tout qui bascule, il y a tout qui bascule. Et le mot grec « en silence », avec « que la femme s'instruise en silence », est de la même famille que celui qui est utilisé au verset 2, lorsqu'il est dit « afin que nous menions une vie paisible et tranquille ». Que la femme s'instruise, Paul le veut, en toute tranquillité, d'une manière paisible. Mais ça a été traduit en silence. Vous voyez les nuances des mots. Hein? et avec une entière soumission, eh bien c'est normal parce que dans la culture judaïque, la soumission était une vertu dans le cadre de l'éducation et de l'enseignement des disciples devant leur maître, devant les rabbins. Donc, en fait, quand on reprend ce verset, on pourrait le dire, voilà, j'ordonne à cette femme qu'elle soit instruite, parce qu'elle n'a pas été instruite, et qu'elle écoute paisiblement, mais comme vous faites tous. Et avec une entière soumission, c'est-à-dire une acceptation de ce que cette femme pouvait entendre et recevoir. Il n'y a pas une sanction sur ce verset, il n'y a pas une privation. Le verset 12, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. » Eh bien oui, quand quelqu'un enseigne des fausses doctrines, que l'on soit un homme ou une femme, eh bien on ne lui permet pas d'enseigner. Ça me paraît d'une évidence. On ne va pas laisser faire. Et c'est bien ce que Timothée a la charge de faire, c'est de ne pas laisser faire des enseignements, des fausses doctrines qui vont emmener l'Église dans des chemins qui ne sont pas justes. Donc, si Paul dit « je ne permets pas à la femme d'enseigner », c'est normal. Ça n'est pas un ordre où il dit « je ne permettrai jamais à aucune femme d'enseigner ». Il dit simplement à celle-là « pour l'instant, je ne lui permets pas d'enseigner ». Mais c'est logique. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est une évidence. Mais que l'on soit homme ou femme, c'est la même chose. Ni de prendre autorité sur l'homme. Alors là, on est sur quelque chose de très difficile à comprendre, que même les plus grands exégètes n'ont toujours pas compris. Le mot qui est utilisé, autentein, est le mot utilisé une seule fois dans le Nouveau Testament et très rarement utilisé dans la littérature grecque de l'époque. On a de la peine à le comprendre ou à le traduire ou à savoir ce que Paul a voulu dire. En tout cas, il était question d'une prise d'autorité par les femmes, mais de façon sensuelle et érotique. C'était un mot vulgaire. Je vous laisse, voilà, vous comprendrez ce que chacun peut comprendre. Donc, on ne peut pas dire ici que là aussi, c'est un dogme où la femme ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme. Et de toute façon, l'autorité, ça n'est pas quelque chose qui se prend. C'est un don de Dieu, soit un don naturel, on dit des fois de quelqu'un, il a une autorité naturelle, il a un charisme, soit quand on a une fonction qui nous est déléguée. On a l'autorité, un policier a l'autorité de faire régner l'ordre. Il a cette autorité-là. Nos autorités, notre président, il a été élu, il a l'autorité pour prendre des décisions. Mais c'est quelque chose qui lui a été confié. Alors il y a des gens qui prennent, ça s'appelle un dictateur. Et dans le monde chrétien, dans la pensée de Christ, l'autorité est toujours liée à ce qu'on appelle une autorité de service. Donc là aussi, c'est un long sujet, mais ce n'est pas le moment. Et qu'elle demeure dans le silence, à la fin de ce verset, c'est normal parce que, comme je vous ai expliqué, les coutumes, c'était de poser tout le temps des questions, de débattre pendant les temps d'enseignement. Et là, pour pas qu'il y ait du désordre, qu'elle pose des questions qui, de nouveau, pourraient faire des discussions vaines, comme Paul le disait, il lui demande simplement d'être assis, d'écouter et puis d'apprendre. Mais voilà, sans contester toujours. Hein. Donc, il n'y a pas le fait, ce n'est pas un dogme que la femme doive demeurer dans le silence. Et alors après, c'est des versets compliqués. Pourquoi ? Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Si on peut passer au verset suivant. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Et en fait, on comprend mieux quand il y avait toute cette question de gnose qui disait que Ève avait été créée avant Adam. Et là, en fait, Paul remet les pendules à l'heure, il remet de l'ordre, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. C'est vrai, Ève a été séduite par Satan. Elle n'a pas reçu dans ce temps-là une gnose, un secret occulte hein, que Satan lui aurait révélé. Ça n'est pas vrai, c'est du mensonge, c'est une fausse doctrine. Et la femme qui enseigne a été séduite, tout comme Ève a été séduite. Et malheureusement, sur ces versets-là, on en a aussi déduit que la femme était la coupable du péché dans le monde. Alors, je vous passe tous les commentaires qui ont été faits au fil des siècles. Or, Paul est clair sur ce sujet. Le péché est entré par Adam, qui lui n'a pas été séduit, mais qui lui a choisi de désobéir à Dieu. C'est pas pareil. Là, effectivement, dans ces deux versets, Paul n'en parle pas, mais il en parle dans d'autres passages. Alors, où est-ce que j'ai marqué ? Dans Romains 5, 12 à 21, pour ceux qui veulent lire, ou 1 Corinthiens 15, 21, 22, ce sujet est débattu et pris en compte par Paul. Donc, effectivement, cette femme a été séduite comme Ève. C'est pourquoi elle sera néanmoins sauvée, au verset 15, en devenant mère. Oups, qu'est-ce que c'est que cette doctrine ? Voilà qu'on est sauvé plus par la foi en Jésus-Christ, mais en devenant mère. Mais alors, ceux qui ne peuvent pas être mères, messieurs, je vous plains, parce que si je prends ce texte hors de son contexte, il n'y a aucun salut possible pour vous. Et les personnes qui ne vivent pas la maternité non plus. Donc, honnêtement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez bien que si je pousse la réflexion dans ce sens-là, c'est complètement stupide. Ça n'a aucun sens, puisque Paul dit bien que Dieu veut que tous les êtres humains soient sauvés. Vous comprenez? L'importance de chacun de ces versets, c'est qu'ils se renvoient constamment l'un à l'autre. Et en fait, il faut revenir à Ève. C'est elle la clé de ce début de verset. Quand il dit « elle sera sauvée en devenant mère », souvenez-vous, Ève, Satan Dieu a annoncé à Satan que, voilà, à Ève, que sa descendance vaincrait Satan, hein, lui écraserait la tête, même si Satan blesserait le talon de sa descendance. Et en fait, il s'agit de la même annonce du salut, de l'espérance, tant pour Ève que pour cette femme qui ont, entre guillemets, déraillé parce qu'elles ont été séduites par méconnaissance. Il y a une porte ouverte en Dieu qui est le salut en Jésus-Christ, qui est l'annonce de Jésus-Christ. Et on revient au verset 1 où Paul, apôtre du Christ Jésus, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et du Christ, notre espérance. Là aussi, il y a un écho entre ce mot « espérance » et la compréhension de ce verset. Il y a une espérance pour ce homme ou femme qui déraille parce qu'ils sont séduits, et même pour tout le monde, parce que la grâce de Dieu est la même pour tous. Et Paul dit bien, quand il décrit ce qu'il était avant, que Dieu l'a choisi malgré tous ses péchés. Et on reprend le verset 14 qui dit « Et la grâce de notre Seigneur a surabondé. » Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Que l'on soit homme ou que l'on soit femme, mais dans ce contexte, il s'agissait de cette femme. Et en fait, quand on reprend, voilà, je vais juste terminer avant de m'emballer sur autre chose, on finit ce verset, si elle persévère avec modestie dans la sanctification et dans l'amour, en fait, le texte grec parle de elle au pluriel. On rebascule, on ferme la parenthèse de la femme pour revenir sur les femmes qui prient et qui persévèrent dans la modestie, c'est-à-dire dans un comportement chrétien, c'est-à-dire de la foi, de l'amour, de la sanctification avec modestie, parce que ce que Paul veut, c'est que l'on soit authentique, vrai dans notre foi. Donc, on arrive là à boucler une boucle d'une compréhension sur un texte qui nous ouvre des portes extraordinaires et qui bouscule des murs. Christ est venu pour enlever les murs de séparation que les hommes ou Satan ont mis. Je pense que, comme conclusion, on peut dire que l'évangile de Christ est toujours et encore une fois une révolution. Quand on dit il y a avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, hein, dans nos dates, c'est une vraie réalité. Christ a tout bousculé. Il a renversé des choses par rapport aux femmes que nul autre n'en fait jusqu'à ce jour. Et je pense que là, l'Église, sur ce sujet-là, doit s'examiner. Parce qu'on a, depuis des siècles, pris ces textes à la lettre. On en a fait des dogmes et on a posé des interdits depuis des siècles. Or, ça n'est pas du tout ni ce que Paul nous dit, ni ce que Christ nous dit et ni ce que Christ est. Parce que notre Dieu n'est pas celui qui pose des interdits sur l'un ou sur l'autre. Et je crois que vraiment, nous avons aujourd'hui, quand Lucie m'a posé la question, je me suis dit, on est en 2020, c'est pas possible qu'en 2020, on puisse encore cultiver cette vision-là des choses. On a la responsabilité de dire qui est notre Dieu, c'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, hommes et femmes ont la même valeur. Qu'hommes et femmes, dans le royaume de Dieu, participent au même héritage. Et que nos différences sexuelles n'en sont pas moins des complémentarités indispensables. Et je pense qu'au regard de tous les basculement qu'on trouve dans notre société aujourd'hui, et gardons-nous de croire que c'est irrévocable ces choses-là. Je pense que s'il y a des cultures extérieures qui arrivent dans notre société, on sait qu'elles battent en brèche ces choses. En Afrique, les petites filles sont enlevées parce qu'on ne veut pas qu'elles soient éduquées dans certains endroits. Je pense au Nigeria ou dans d'autres, parce que l'éducation est battue en brèche aujourd'hui, non seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Satan lutte là contre, parce qu'il sait qu'avoir la connaissance, non pas la gnose, mais la connaissance de Dieu, c'est comme ça que l'Église va être cette colonne de vérité. Et elle doit produire ce fruit dans le monde. Je pense aux femmes féministes. Je ne suis pas du tout féministe, mais quand on les entend, il y a une telle souffrance. C'est de la violence qui a été faite. Et là, je crois que nous, en tant que chrétiens, on a à ne plus cultiver cette chose-là. Non pas par l'air du temps, mais parce que l'Écriture et Paul nous dit autre chose. Amen.